Vous écoutez, on lit pour vous.
Le réchauffement climatique prolonge la durée de la saison des allergies saisonnières. Un texte de Pauline Gravel, paru le 29 avril 2026 dans Le Devoir. Même si le printemps a été plutôt gris et pluvieux jusqu'à maintenant, les allergies saisonnières au pollen ont bel et bien fait leur apparition. Depuis quelques années, elles se manifestent même plus tôt au printemps et se prolongent plus tard à l'automne, et ce, en raison du réchauffement climatique. Les arbres, comme les bouleaux et les peupliers qui sont responsables des allergies printanières, fleurissent environ une semaine à 10 jours plus tôt que dans les années 80-90, affirme en entrevue l'agronome David Weiss, chargé d'enseignement au département des sciences végétales de l'Université McGill. C'est lorsque la sève des arbres se réactive sous l'effet de températures plus clémentes que les bourgeons des arbres sortent de leur état de dormance et éclosent. Ce phénomène, appelé débourrement, laisse apparaître les feuilles et les fleurs dont les organes mâles, les étamines, produisent le pollen. Les arbres, dont les fleurs sont très petites, comme les bouleaux, les peupliers, les chênes, les érables, les aunes, les noisetiers et les noyers, produisent beaucoup de pollen, lequel est emporté par le vent en raison de sa légèreté, souligne M. Weiss. Les arbres qui produisent de grosses fleurs très voyantes et qui sentent bon, comme les rosiers, les pommiers et les cerisiers, sont surtout pollinisés par les abeilles. Le pollen qui est transmis par les abeilles est plus lourd et se transmet mal par le vent et, pour cette raison, cause très rarement des allergies. Le pistil, organe reproducteur femelle des fleurs, produit pour sa part les graines, une fois que les ovules qu'il contient ont été fécondés par le pollen. Les arbres relâchent leurs graines un peu plus tard que leur pollen. Les peupliers, par exemple, libèrent leurs graines au cours du mois de juin. Ces graines sont attachées à de longs filaments soyeux blancs et ressemblent ainsi à des touffes de coton qu'on surnomme « neige de peuplier ». Ces graines sont plus grosses que le pollen, mais flottent néanmoins dans l'air grâce à ces filaments blancs. Toutefois, ils ne causent pas d'allergie, précise M. Weiss. En été, les graminées. Au milieu de l'été, ce sont surtout les graminées qui sont la source d'allergies. On les retrouve dans les champs de foin, mais aussi dans les terrains à l'abandon en ville où prospèrent des espèces sauvages qui, lorsqu'elles fleurissent, produisent beaucoup de pollen, note M. Weiss. Ce dernier pointe aussi du doigt les graminées qui sont souvent présentes dans les pelouses, comme le pâturin des prés dans la région de Montréal. Ces graminées produisent des grains de pollen très petits, voire microscopiques, qui s'envolent facilement dans l'air. Mais, en tondant régulièrement les pelouses, on coupe une bonne partie des bourgeons floraux et on élimine ainsi beaucoup de pollen, explique-t-il. Vaut-il mieux ramasser l'herbe coupée? Pas nécessairement. Juste le fait de l'avoir coupée va arrêter la floraison. Une fois que l'herbe est coupée, elle se décompose assez rapidement, répond l'agronome. Et faut-il aussi accuser les pissenlits qui envahissent certaines pelouses d'accentuer les allergies? Les gens vont souvent les blâmer, mais ils ne causent pas d'allergies. Leur pollen est transmis presque uniquement par des abeilles parce qu'il est lourd. Et une fois que la fleur jaune a terminé sa floraison, la boule vaporeuse qui s'ensuit porte les graines qui, elles, ne causent pas d'allergie non plus, affirme M. Weiss. Durant les périodes de canicule et de temps chaud et sec, qui se font plus fréquentes en raison du réchauffement climatique, le pollen demeure plus longtemps en suspension dans l'air, ce qui contribue, par un effet indirect, à amplifier les allergies, fait remarquer le chargé d'enseignement. À partir du mois d'août, c'est l'herbe à poux qui devient la bête noire des personnes allergiques. Les fleurs d'herbe à poux sont très petites et de ce fait produisent un pollen microscopique qui est très facilement emporté par le vent. L'herbe à peau commence à fleurir au mois d'août et va continuer à fleurir aussi longtemps qu'il n'y a pas de gel. Jadis, le premier gel arrivait au début d'octobre. Mais maintenant, dans la région de Montréal, on n'a souvent pas de gel avant la mi-octobre, parfois la fin d'octobre. Cela veut dire que la floraison se poursuit 2, 3, parfois 4 semaines de plus à l'automne. Cela étire donc beaucoup la saison des allergies, indique M. Weiss. Le réchauffement climatique n'augure donc rien de bon pour les personnes aux prises avec des allergies saisonnières qui verront leurs pénibles symptômes se manifester plus longtemps dans l'année. C'était « Le réchauffement climatique prolonge la durée de la saison des allergies saisonnières », un texte de Pauline Gravel, paru le 29 avril 2026 dans Le Devoir.
La mère de tous les pigeons de New York. Un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Entouré de ses sculptures souples en feutre, représentant des pigeons et des rats dans un secteur ensoleillé de l'Union Square Park à Manhattan, Mère Pigeon interrompt sa conversation avec un journaliste pour répondre à un courriel. « Ça vient de Louis Vuitton », précise-t-elle en faisant référence à la marque de luxe française. Après avoir envoyé sa réponse, l'artiste performeuse de 61 ans dit à son interlocuteur venu à sa rencontre « Ils veulent que je participe à une campagne publicitaire. Je leur ai dit que je ne porterai ni fourrure, ni cuir, ni plume. » Assise en tailleur, Mère Pigeon de son vrai nom Tina Pigna, Trachtenberg, est vêtue d'un manteau recouvert de pièces de tissu en forme de plume. Sur la tête, elle porte un chapeau fleuri sur lequel niche un pigeon. Tout est très usé, un peu miteux, dit-elle en parlant de son accoutrement. J'adore le côté miteux. Et bien que son look semble avoir séduit Louis Vuitton, il déconcerte certains New-Yorkais. Ainsi, quand elle prend le métro, Mère Pigeon se rend compte que les passagers refusent de s'asseoir à côté d'elle. Ils pensent que je suis folle, que je suis une sans-abri, dit-elle. Elle n'est ni folle, ni sans-abri. Elle vit avec son mari, musicien et dramaturge, dans un appartement de Bushwick, à Brooklyn. C'est là que se trouve l'atelier où elle transforme des animaux mal aimés en œuvres d'art, pour reprendre ses mots. Mais son action ne se limite pas à cette activité artistique qui lui permet de gagner sa vie depuis 12 ans. Elle comprend aussi la lutte contre les braconniers qui piègent les pigeons de New York, surnommés « rats ailés », par leurs détracteurs et les destine à une mort cruelle en Pennsylvanie. Le tir aux pigeons vivants est toujours légal en Pennsylvanie, explique celle qui se fait également appeler Madame Pigna entre deux conversations ou transactions avec des curieux ou des clients. Tôt le matin, ces braconniers se rendent dans les parcs de New York où ils attrapent des pigeons avec de grands filets à papillons. Vendus à des intermédiaires, les oiseaux sont ensuite transportés en Pennsylvanie dans des cages. Et puis, on les torture avant de leur tirer dessus, dit Mère Pigeon. On les torture? Oui, on leur rogne les ailes pour limiter leur vol. Ils n'ont aucune chance de survivre au tir. On les met dans des catapultes qui les propulsent dans les airs. Si leurs ailes étaient intactes, ils auraient une chance de s'en sortir. Car mes pigeons sont très forts et très courageux. Vos pigeons? Ce sont tous mes pigeons. J'en prends soin comme si c'était mes enfants, dit Madame Pigna en distribuant des graines aux oiseaux. Au printemps 2025, elle a organisé une campagne contre les propriétaires d'un magasin d'oiseaux de Brooklyn qu'elle soupçonnait d'acheter des pigeons issus du braconnage. La police de New York n'a jamais pu confirmer ses soupçons. Mais, à la même époque, des policiers ont surpris un homme de 67 ans en train de capturer des pigeons avec un filet à papillons dans Tompkins Square Park à Manhattan. Ils ont ensuite découvert plus de 25 pigeons en cage dans une camionnette garée à proximité. passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, Dwayne Daly, domicilié à Bushkill, en Pennsylvanie, a évité de se retrouver lui-même en cage à la suite d'un accord avec le bureau du procureur de Manhattan, qui a indigné Mère Pigeon et ses compagnons de lutte. « Nous vivons dans une société malade », dit-elle aujourd'hui. Symbole de résilience. James Fee croit savoir pourquoi les pigeons sont maltraités ou mal aimés par certains New-Yorkais. Ils vivent dans la rue, ils fouillent dans les poubelles, ils sont comme les sans-abri, dit cet ancien professionnel du développement des affaires et de la levée de capitaux qui vit dans l'Upper East Side, le quartier le plus huppé de Manhattan. Tout en achetant 35 $ un des petits pigeons de Mme Pigna, qui vend les plus grands 65 $ le New-Yorkais ajoute « Ce sont pourtant des animaux incroyables ». Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont joué un rôle essentiel pour la marine américaine le long de la côte Est. « Et ils sont très propres », interjecte Mère Pigeon. Mère Pigeon dénonce la propagande massive dont ont fait l'objet les colombidés importés aux États-Unis de l'Europe au 18e siècle en tant qu'animaux domestiques. Mais le vent est peut-être en train de tourner. Depuis octobre 2024, une sculpture colossale représentant un pigeon se dresse sur la High Line, parc linéaire suspendu de Manhattan, à l'angle de la 30e rue et de la 10e avenue. Signée par l'artiste colombien Ivan Argote, cette sculpture hyper-réaliste en aluminium coulé s'intitule « Dinosaur », référence à l'échelle de la sculpture ainsi qu'aux ancêtres du pigeon, qui, il y a des millions d'années, dominait la planète. Quelques 18 mois après son installation, le « Dinosaur » d'Ivan Argote doit bientôt être remplacé par une autre œuvre d'art. Mais une pétition ayant recueilli plus de 7000 signatures sur le site change.org réclame que la ville lui fasse une place permanente sur la High Line. Le pigeon est un symbole de résilience et de persévérance et représente New York ainsi que tout ce qu'elle incarne, affirme Brett Tulip, l'initiateur de la pétition. Retirer la sculpture reviendrait à supprimer une œuvre d'art qui est déjà devenue profondément significative pour la communauté en très peu de temps. Intermède musical. À sa façon, Mère Pigeon est elle-même devenue un symbole de résilience et de persévérance. Née à San Antonio, au Texas, dans une famille d'immigrés mexicains, elle est arrivée à New York à la fin des années 1980 avec l'ambition de s'y faire un nom comme artiste. À cette époque, relate-t-elle, j'aspirais à ne pas mener une vie conventionnelle et à devenir à terme une artiste reconnue. Pour moi, faire de l'art, c'était une question de vie ou de mort. Mais devenir connue ou célèbre, ça ne m'importe plus vraiment. Elle a pourtant flirté avec une certaine gloire dans les années 2000 au sein des Trachtenberg Family Slideshow Players, un trio à mi-chemin entre le rock et le vaudeville, dont les chansons étaient inspirées par des diapositives ayant appartenu à des personnes décédées. Son mari Jason chantait en s'accompagnant au piano ou à la guitare, sa fille Rachel jouait de la batterie et elle chantait en faisant tourner le carrousel d'un projecteur de diapositives. Le spectacle le plus couru à New York allait s'enthousiasmer le magazine Entertainment Weekly avant que le trio ne soit invité sur les plateaux de télévision, y compris celui de l'émission de Conan O'Brien. « Nous avons fait le tour du monde », rappelle Mme Pigna. « Nous étions traités comme des rois. C'était un moment incroyable. » Mais les Trachtenberg ont mis fin à cette expérience épuisante au bout de 6 ans. Et Mère Pigeon s'est mise à fabriquer des sculptures souples d'animaux mal aimés. « Tant que je peux faire de l'art, survivre et vivre à New York, j'ai gagné. Je gagne », dit-elle. Les pigeons de New York aussi. C'était « La mère de tous les pigeons de New York », un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Une salle de bain sans papier hygiénique jetable? Un texte d'Anouchka Debionne, paru le 27 avril 2026 dans la presse. Lingettes démaquillantes en tissu, mouchoirs lavables, culottes hygiéniques. Au Québec, les produits réutilisables font peu à peu leur place dans la salle de bain. Mais qu'en est-il du papier de toilette? une idée qui ferait froncer le nez de certains, mais qui gagne en popularité. Pourquoi mes enfants ont des couches lavables et moi j'utilise du papier de toilette jetable? Demande Marie-Philippe Filteau, fondatrice de la boutique de produits en tissu Marie-Phil. 5 entrepreneurs québécoises rencontrées par la presse ont commencé leur distribution de papier de toilette réutilisable, offert parmi une gamme de produits en tissu après avoir expérimenté les couches réutilisables. Pour Karine Letourneau, fondatrice de la boutique Oco Création, tout a commencé avec une blague. Le 1er avril, j'ai lancé à mon associé « Pourquoi on ne lance pas un papier de toilette qui s'appelle « Je m'entorche » ?» 6 ans plus tard, la boutique offre toujours le produit en le proposant comme complément au bidet. L'utilisation du papier de toilette lavable est difficile à concevoir d'un point de vue hygiénique, surtout pour les gars, selon Marie-Ève Lupien, qui a lancé l'entreprise Bateau Bateau en 2018. Le bidet apparaît alors comme un bon moyen de réduire sa consommation de papier. La créatrice du premier bidet québécois estime que 2 avenues sont possibles. Soit on commence à utiliser le bidet après avoir adopté le papier de toilette lavable pour plus d'hygiène. Soit on commence par adopter le bidet et on ne se satisfait plus du papier de toilette jetable pour se sécher, car il se décompose au contact de l'eau. Un impact sur la planète. Le papier de toilette jetable est très énergivore, de sa conception à son traitement dans les eaux usées. L'analyste en cycle de vie de produits Elliott Muller a exposé en 2024 la quantité de ressources nécessaires pour le produire sur les ondes de l'émission « Moteur de recherche » de Radio-Canada. De l'électricité pour broyer, presser, sécher et enrouler les feuilles jusqu'à l'eau nécessaire pour fabriquer la pâte de papier, il estime que pour produire une seule feuille de papier hygiénique, il faudrait compter de 0,5 litres à 2 litres d'eau. Un nettoyage au bidet consomme quant à lui seulement 0,5 litres. Au-delà de l'argument écologique, les gens ont besoin de comprendre que c'est plus hygiénique et pratique, insiste la fondatrice de Bateau Bateau. Depuis la fin de la pandémie, l'argument de la réduction de la consommation n'est plus suffisant pour vendre ces produits. Elle remarque que le mode de vie zéro déchet peut être contraignant, cher et fatigant sur la durée. Marie-Ève Lupien a décidé d'adapter son discours pour promouvoir un meilleur confort de vie sans sacrifice. Elle espère ainsi convaincre des personnes climato-sceptiques d'essayer la transition vers le bidet. « C'est mon cheval de bataille. Je veux des fesses propres pour tout le monde au Québec. » Selon Geneviève Saint-Amour, qui vend ses produits depuis 7 ans dans sa boutique Écoloco, la majorité de la clientèle est composée de jeunes familles, mais a tendance à être vieillissante. Un changement clé en main. Le plus grand frein à l'adoption du papier de toilette lavable, c'est l'hygiène. Un produit vendu clé en main et une démonstration de son utilisation deviennent essentiels. Les boutiques vendent des produits connexes, pensés pour minimiser le contact avec le tissu sale. La marque Bateau Bateau offre un kit clé en main comprenant les produits de base, avec le bidet, les rouleaux de papier hygiénique lavable et le sac en tissu pour en disposer une fois utilisé. Le sac se dézippe en bas pour que tu n'aies même pas besoin de toucher son intérieur, explique Mme Lupien. Elle propose des gammes de bidets du plus simple au plus sophistiqué, en passant par un format portable pour les voyages. Lorsqu'elle rencontre sa clientèle dans les salons et les marchés, Marie-Ève Lupien se rend compte que les personnes qui ont voyagé et expérimenté le produit dans les toilettes à l'étranger sont plus ouvertes. C'est une question de normes. En Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, se rincer, c'est la norme. Les ventes se multiplient grâce au bouche à oreille et à la découverte du bidet en visitant familles et amis. Subvention municipale. Au Québec, certaines municipalités offrent des subventions pour acheter du papier hygiénique lavable. L'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal propose un remboursement de 50 % de la facture de l'installation d'un bidet, des mouchoirs et du papier de toilette lavable pour ses résidents. Jusqu'à 10 % supplémentaires peuvent être remboursés si les produits sont fabriqués au Québec. Les résidents de la Ville de Québec peuvent quant à eux recevoir 60 % du prix déboursé pour leurs produits menstruels durables et les couches lavables. Les bidets peuvent se trouver dans les grandes surfaces, tandis que les papiers hygiéniques réutilisables se vendent dans les boutiques écologiques ou directement du créateur au client sur les plateformes Etsy ou Marketplace. C'était « Une salle de bain sans papier hygiénique jetable », un texte d'Anouchka Debionne, paru le 27 avril 2026 dans La Presse.
Alimentation et grossesse. Le discours inexact et alarmiste d'une influenceuse pour contrôler les pics de glycémie inquiète les experts. Un texte paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Manger 4 œufs par jour ou éviter les pics de glucose. L'influenceuse française Jessie Inchauspé prodigue dans un nouveau livre des conseils aux femmes enceintes censés améliorer la santé de leur bébé. Mais des professionnels de santé mettent en garde contre un discours inexact et alarmiste. Autoproclamée déesse du glucose, Jessie Inchauspé, influenceuse en nutrition à plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, doit sa popularité à sa glucose révolution, titre de son premier livre paru en France en 2022 et traduit dans une quarantaine de langues. Pour contrôler les pics de glycémie, néfastes selon elle, cette biochimiste de formation recommande vinaigre de cidre ou capteur de glycémie. Des diabétiques qui ont besoin de ce dispositif médical pour mesurer le taux de sucre dans le sang et des médecins selon lesquels le lien entre pic glycémique et maladie n'est pas démontré, s'en sont indignés. Dans les médias où elle fait la promotion de son livre « 9 mois qui comptent pour la vie, comment votre alimentation pendant la grossesse joue sur le futur de votre enfant », Robert Laffont, Jessie Inchauspé explique avoir créé elle-même un programme au vu d'un gouffre entre ce que la science savait et ce qu'on lui disait pendant sa grossesse. Sa théorie. Ce qu'une femme mange pendant sa grossesse influence le développement et la santé du bébé à court et long terme. Ainsi, selon elle, l'alimentation de la femme enceinte programme le bébé au niveau épigénétique et affecte durablement ses risques de multiples problèmes de santé. Diabète de type 2, dépendance au sucre, santé mentale, allergie. Ce discours manque de nuances pour Marion Lecorguier, chercheuse en épidémiologie sur l'alimentation, la santé périnatale et celle de l'enfant à l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Si les associations sont plutôt bien établies pour le risque de maladies métaboliques ou de surpoids chez l'enfant, l'impact de l'alimentation pendant la grossesse reste à approfondir scientifiquement pour la santé mentale, respiratoire ou le risque d'allergie, explique cette sage-femme de formation. Concernant les modifications épigénétiques, on ne sait pas encore concrètement quel est l'impact clinique, c'est-à-dire chez l'enfant, précise Mme Lecorguier, alertant sur les raccourcis. L'alimentation pendant la grossesse joue un rôle majeur que l'on observe au niveau des populations, mais n'est pas synonyme de déterminisme au niveau individuel, insiste-t-elle, soulignant l'impact plus important du tabac ou de l'alcool, par exemple. Les conseils de Glucose Goddess s'articulent autour de 4 nutriments. Choline, DHA, un type spécifique d'oméga-3, protéines et glucose. Elle conseille ainsi aux femmes enceintes de manger 4 œufs par jour, d'augmenter leur apport quotidien en protéines et oméga-3 et d'éviter le sucre. Sans être dangereuses, ces préconisations ne correspondent pas exactement aux recommandations sanitaires. Manger 4 œufs par jour est un message qui n'a pas été évalué. On ne connaît pas l'effet de cette recommandation, pointe ainsi Mme Le Corguier. Discours culpabilisateur. Le professeur Olivier Morel, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CNGOF, et le professeur Delphine Mitanchès, présidente de la Société française de médecine périnatale, SFMP, se montrent également sceptiques. Sauf pour ne pas abuser des produits sucrés, il n'y a pas de preuves appuyant ces préconisations, déclare-t-il, et une alimentation équilibrée apporte ces aliments en quantité suffisante. Jessie Inchospé écrit d'ailleurs au début de son livre que si vous ne mettez pas en pratique aucune des recommandations de ce livre, votre enfant ira probablement très bien. Interrogée par l'AFP sur ses critiques, l'influenceuse a affirmé ne pas dire que l'on peut contrôler l'apparition d'allergies ou d'autres maladies. Je parle toujours de probabilité, car c'est ce que la science nous montre. Elle défend aussi une approche cohérente avec de nombreuses recommandations internationales et juge que certaines recommandations françaises restent moins explicites ou opérationnelles, notamment sur la choline ou les apports optimaux en DHA. Mais ce discours, assez alarmiste, peut aussi être très culpabilisateur pour les femmes enceintes, risquant d'encourager des comportements alimentaires néfastes, regrette la diététicienne nutritionniste Anne-Laure Laratte. Et l'important demeure la prise en compte de la qualité globale de l'alimentation de la femme enceinte, souligne Mme Le Corguier. C'était « Alimentation et grossesse », le discours inexact et alarmiste d'une influenceuse pour contrôler les pics de glycémie inquiète les experts. Un texte paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.